RTL.fr.
Oui, j'ai compté plein sud.
Vas-y.
Bonjour la planète, bonjour. Salut. Bonjour à tous. Peuple de la diversité mondialisée, radio diffusée, bonjour, merci d'être avec nous, nous sommes ensemble pour le meilleur, vous le savez, jamais pour le pire, grâce à vos initiatives. Direction le monde agricole aujourd'hui. Ah, vous allez en prendre plein les oreilles. Et qu'est-ce qui se passe? Mais où est Eva? Mais Eva est assise sur un épi de maïs. Désolé, on a la culture qu'on mérite. Bonjour Nicolas Drugge.
Il a vieux que pour vous, Eva.
Je suis vraiment désolé, je suis vraiment confus.
Sur du blé, vous n'avez pas retenu.
Ah, d'accord. Vénal, comme beaucoup de femmes autour de nous, n'est-ce pas, Nicolas?
C'est un roseau dépensant.
Qui plie mais n'auront point. Merci de nous rejoindre, nous sommes ravis. Vous êtes des centaines de milliards grâce à Internet à écouter cette émission, à nous envoyer des mails, à écumer la scène des initiatives en direction de l'Afrique et de la diversité. Car du point de vue de l'Afrique, la diversité, c'est les autres pour une fois. Merci de nous rejoindre. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui un monsieur qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui a notamment travaillé il y a quelques décennies en faveur du recul des effets de la sécheresse en Afrique de l'Ouest, qui est le co-inventeur du SAMU social avec un monsieur que vous connaissez sans doute aussi, monsieur Xavier Emmanueli. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui un monsieur qui est délégué général du MOMA, Mouvement pour une organisation mondiale de l'agriculture, Jacques-Carl Simon. Bonjour Jacques.
Bonjour Amédée.
Bienvenue dans cette émission. Une émission maintien-mentale et tropicale, mais vous connaissez beaucoup l'Afrique, vous?
Oui, j'ai vécu longtemps en Afrique et j'aime beaucoup l'Afrique.
Alors, nous allons parler aujourd'hui d'une entité qu'avec d'autres artilleurs vous animez. Il s'agit donc d'une nouvelle manière de concevoir l'agriculture. La première idée motrice, c'est de dire que l'agriculture n'est pas une marchandise comme les autres et qu'il faut peut-être faire bouger le système et inventer une nouvelle manière de l'appréhender, au sens où le constat est le suivant. La majorité de ceux qui produisent des matières agricoles n'arrivent même pas à se sustenter eux-mêmes, n'arrivent pas à se nourrir. Et c'est ainsi qu'avec d'autres, des prescripteurs du secteur et des gens qui procèdent de la société civile, vous avez mis en branle autour du président Monsieur Pagès Pierre le mouvement pour une organisation mondiale de l'agriculture. L'idée motrice, c'est laquelle?
L'idée motrice, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, les produits agricoles ne sont pas des produits comme les autres. Ce ne sont pas des t-shirts, ce ne sont pas des voitures. Près de 50% de la population mondiale travaille dans l'agriculture ou vit de l'agriculture. Et dans les pays les moins développés, 70 à 80% de la population vit dans les campagnes. Enfin, il vit de moins en moins parce qu'il y a un exode rural massif qui encombre aujourd'hui et fait plus qu'encombrer, qui étouffe complètement la plupart des grandes cités dans le monde. Et c'est un réservoir de pauvreté, un réservoir de problèmes pour l'ensemble de la planète dont on n'a pas absolument pas pris la mesure aujourd'hui. Et l'agriculture est au centre de l'avenir du monde, alors qu'en même temps, à l'OMC, elle est traitée comme une marchandise comme les autres. Il y a une absurdité total dans la réflexion des organisations internationales et de quelque part des États. Et c'est pour ça que le MOMA a été créé. Et je voudrais remercier tout d'abord Pierre Pagès, qui est le président du MOMA, qui est un paysan et à la fois un chef d'entreprise. C'est un visionnaire et c'est un homme qui a su impulser une dynamique très forte pour réunir autour de lui non seulement moi-même, mais beaucoup d'autres représentants du monde agricole, du monde de la santé, du monde de l'environnement, pour prendre ce problème à bras-le-corps.
Et donc vous dites donc que les modèles économiques actuels et les fondements de l'OMC ne répondent plus aux enjeux de l'agriculture mondiale, c'est-à-dire par exemple, on ne peut plus avoir la suffisance alimentaire, la lutte contre la pauvreté n'est plus respectée, l'indépendance et la souveraineté des États même n'est plus contrôlée. Et comment est-ce que vous expliquez ces changements depuis les accords de l'OMC, par exemple?
L'OMC est une excellente chose et un grand danger. C'est une excellente chose parce que c'est une intention remarquable que de vouloir ouvrir les échanges et faire en sorte que les pays du monde s'enrichissent tous mutuellement. Ça part d'une idée simple mais qui a été démontrée par Ricardo, c'est que si les pays se spécialisent dans les domaines où ils excellent, le monde s'enrichira et tout le monde s'enrichira. Ça c'est dans un cadre de concurrence pure et parfaite où tout va bien, où les rendements sont stables et où les échanges internationaux sont stables. Appliquer ces principes à un monde qui est totalement ouvert et qui se mondialise, avec les tensions et les luttes de pouvoir et les luttes financières qu'il peut y avoir, c'est beaucoup plus dangereux.
Ce que vous voulez dire en fait, et ce que propose votre modèle, c'est que finalement, ce secteur, donc celui de l'agriculture, celui pour l'essentiel de ceux qui nous écoutent qui est important, à savoir être capable de nourrir sa famille, c'est de réguler. C'est-à-dire de faire de l'interventionnisme. Et pour vous, ça n'est pas un paradoxe avec le libéralisme?
Non, au contraire. Réguler, ce n'est pas de l'interventionnisme au sens où on l'entendait il y a 30 ou 40 ans, c'est une nécessité pour la planète. On ne peut pas avoir un monde dont la démographie s'accroît, qui va bientôt parvenir à 8 ou 9 milliards d'hommes, sans essayer de réguler le carburant initial et principal de l'humanité, qui est l'alimentation. Ne pas réguler l'alimentation sous prétexte que c'est une marchandise comme une autre, et à mon avis, est une perversion
économique.
Mais là,
vous parlez pour qui? Vous parlez pour la planète? Parce que du point de vue africain, par exemple, ou du point de vue asiatique, on va vous rétorquer que vous êtes bien gentil, mais pour l'instant, vos paysans, ceux du monde occidental, sont subventionnés,
ouais.
Et nous, on est toujours la dernière rue du carrosse et le tiers-monde de la portion congrue.
Alors là, on est dans la logique de Doha, cycle du développement. Doha, cycle du développement, suppose que si on libéralise entièrement le commerce international, ça va profiter tout d'abord aux pays les plus pauvres. D'où ce que vous venez de dire. Alors ça, c'est une simple application du modèle de la Banque mondiale qui a dit si on libéralise l'agriculture, ça profitera surtout aux pays les plus pauvres. Le seul ennui, c'est que dans le modèle de la Banque mondiale, il n'y a pas de différence entre les pauvres et les riches. Alors on ne peut pas dire ça. Et du coup, on s'est aperçu, et c'est pour ça que l'on fait un nouveau modèle économique, que tout le monde marchait sur la tête et qu'on avait des bases complètement fausses. En réalité, et c'est déjà ce qui se passe en Afrique, on voit bien avec les accords de partenariat économique,
ouais.
Si on libéralise trop vite, alors que les infrastructures n'ont pas suivi, on va appauvrir encore plus les agricultures des pays pauvres.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'on ait d'abord une bonne vision de l'avenir, que l'on sache exactement ce qui se passe si on prend telle ou telle décision. Aujourd'hui, on ne le sait absolument pas, puisque les modèles qui sont en place ne donnent pas une bonne vision de l'avenir. D'où l'idée de créer le modèle Momagri, qui est quasiment terminé et qui va produire ses premiers résultats au mois d'avril.
Alors le modèle qui fait appel donc à des experts venus de tous les corps de société, d'origine,
ethnico... Qui fait appel à des experts du monde entier et qui démontre que le risque en agriculture, c'est-à-dire le phénomène de volatilité des prix qui est en train de s'amplifier sous l'impact de la spéculation, va s'aggraver dans les prochaines années. Et on le sait très bien, lorsque l'inflation était à 15 ou 20%, on disait que ça détruisait les économies. La volatilité des prix agricoles va détruire les économies agricoles.
Et vous parlez d'équilibre finalement entre l'agriculture et les enjeux de l'humanité. Est-ce que vous pouvez préciser la vision qu'a justement le modèle par rapport à ces enjeux-là?
Le modèle n'a pas de vision, le modèle il permet d'avoir une vision. C'est-à-dire qu'il permet de faire des simulations. Il démontre que si on ne met pas en place certains principes de régulation dans le cadre d'une coopération internationale à établir, on va avoir des prix qui vont être de plus en plus volatiles. Par exemple, sur le sucre, ça peut aller de 20 à 35. Comment peut-on assurer demain que pour les paysans de la planète, si deux années de suite les prix sont très bas, comment vont-ils survivre s'il n'y a plus de moyens de régulation? Alors qu'il y ait des moyens de régulation par groupe de pays en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres...
C'est le principe de l'émission. Nous avons un paysan africain en ligne. Salif Diem, bonjour.
Oui.
Oui, vous êtes en direct sur RFI.
Oui.
Nangadef, bonjour, ça va bien?
Bonjour.
Ça va bien.
Bon, nous sommes en présence de plusieurs personnalités. La première est féminine, vous la connaissez bien, c'est Eva.
Bonjour,
qui ne se manifeste pas.
Salut.
Salut, bonjour, bienvenue. Et nous avons Jacques-Carl qui est délégué général du MOMA, qui est une entité qui promeut une nouvelle manière de concevoir l'agriculture, et Nicolas Druze nous accompagne. Alors vous êtes un Africain, dites-vous donc au chômage, cadre administratif. Vous avez créé vous appartenez à la société civile. Vous avez créé une association en zone rurale. Vous êtes établi à Dakar au Sénégal, et en fait, ce qui vous intéresse, c'est de mettre en place des structures en zone rurale qui vont favoriser, dites-vous, la culture biologique et biodynamique. De l'hibiscus, Sabdarifa. Vous pouvez nous dire ce que c'est que l'hibiscus Sabdarifa?
Hein?
Vous pouvez nous parler un peu de cette hibiscus
cette plante,
et pourquoi
et
l'hibiscus?
Pourquoi est-ce qu'elle est importante?
Sabdarifa, c'est le Sabandurten, quoi.
C'est pas... une...
C'est bissap, le bissap, un terme sénégalais.
Le bissap.
Ah, c'est le bissap.
Qui permet, ce qui permet okay. de faire une boisson oui. qu'on appelle le carcadet, par exemple,
tout à
au
fait.
Soudan.
Et qui est un hypotenseur quand on en boit trop. J'ai appris ça à mes dépens. Alors, expliquez-nous, alors, qu'est-ce que vous voulez faire exactement?
Bah, ce que je veux faire, c'est-à-dire, bon, c'est une culture biologique, c'est-à-dire qui n'intervient que, l'engrais chimique n'intervient pas.
L'engrais chimique
avec
n'intervient
l'engrais
pas.
Organique, il faut faire la culture du bissap. Bon, c'est une plante qui permet de faire des jus
quoi. Mm-hmm. Alors, et vous avez quoi comme étendue, cher ami?
Hein?
Quelle vous superficie avez... de terre vous avez?
Combien?
Combien de terrains tu as, mon frère, Gorgui?
Non, c'est une communauté de 48 villages qui s'intéresse à ça.
Ah, mais c'est génial. Donc, c'est une collectivité rurale. Dans quelle région du Sénégal exactement?
C'est dans la région de la Casamance.
Ah, Casamance. Forcément, oui. Casamance, le grenier du Sénégal. Alors, ce qu'on va dire,
parce que c'est un projet qui est lancé par Madame Vivian Watt.
OK.
Dans d'autres secteurs, surtout au nord du Sénégal.
OK.
Qui a vraiment porté ses fruits, quoi.
Alors, c'est le cas de le dire.
Là, j'ai voulu peut-être transplanter ce projet en Casamance.
OK.
Alors, j'avais remis une étude de projet bien très complète qui est toujours en étude dans ce cabinet.
Alors, ce qui est intéressant.
Salif
Gorgui.
Oui.
Écoute bien. Ce qui est intéressant, c'est que ton projet, pour toi qui es au chômage, d'abord, il démontre que la société civile se meut, bouge, mais en plus de ça, qu'elle implémente directement autour de l'agriculture des ressorts de création d'emplois. Parce que 40 villages, vous pensez pouvoir créer beaucoup d'emplois.
Surtout pour la préservation de l'environnement, parce qu'ils n'utilisent pas d'engrais chimiques pour la culture de cet hibiscus.
Moi, je suis en train de faire beaucoup d'études de projet parce que. Je suis en train de monter une unité de transformation.
D'accord.
Peut-être si la marché n'est pas vendu, essayer de le transformer sur place, quoi.
Ok, alors ce qui est intéressant, c'est la production, mais on reviendra vers toi pour voir comment d'abord tu écoules sur le marché local ta production, parce qu'ensuite il y a la vente, hein, le marketing et tout ça. Bonne chance pour la suite, on va donner ta boîte mail, c'est Salif Diem 74.
Salif Diem.
Oui, mais il n'y a pas d'accent Salif sur internet, Diem, c'est pour ça. Hein. Salif Diem, D-I-E-M-E 74, @yahoo.fr. Jerry Jeff Gorgui, hein. À bientôt.
À bientôt, ok.
Salut,
à bientôt.
Bye bye.
Salut. Vous avez déjà goûté à ça, vous, l'hibiscus vous aimez ça?
Il a l'air de s'y connaître, Nicolas.
C'est un peu acide, c'est bon.
Ah, mais moi j'adore le bissap, c'est ma boisson préférée au Sénégal. Mais c'est un hypotenseur, j'en avais bu des litres et des litres.
Allô?
Allô, bonjour.
Un antioxydant.
Allô. Bonjour. Allô.
Bonjour.
Salut, le Viti, là.
Bonjour. C'est Lydie?
Oui.
Bonjour, c'est Lydie. Ça va, Lydie?
Bonjour. Oui, ça va. Puis-je savoir qui c'est? Un instant. Et elle parle sur RFI. C'est ça que je fais sur RFI. Et tu veux bien me réagir?
Oh là là, la petite Marlene, comment elle dit? Oui, écoute, je ne suis pas sur RFI. Mais nous sommes à Madagascar, là.
Oui, vous êtes à Madagascar.
Vous êtes en direct, Lydie. Bravo!
Oui, Lydie, elle vient de se rendre compte qu'elle est sur RFI. Bonjour Lydie, comment ça va?
Bonjour, vous êtes Eva.
Oui, je suis Eva, je suis enchantée de vous connaître. Vous nous écoutez depuis Antananarivo?
Antananarivo.
Ouais. Alors comment ça va là-bas?
Oui, ça va.
vous avez l'air contente. Super contente, hein. C'est mieux que d'avoir gagné au loto, vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Merci Clo-Clo pour tout ce que tu as fait pour l'humanité biologico-musicale. Merci de nous rejoindre, c'est plein sud. Nous accueillons aujourd'hui le délégué général du mouvement pour un ordre mondial de l'agriculture, j'allais dire nouveau. Un nouveau modèle théorique et d'action autour de la thématique de l'agriculture. Le délégué général de cette entité qui est Jacques Carle, à notre micro.
Alors, tout le monde comprend bien que pour un paysan africain, s'il n'est pas sûr du prix de cacao, de cacahuètes, tout ça, il ne peut pas investir, il ne peut rien faire. Si on régule, comme vous l'avez expliqué, c'est une chose qui paraît primordiale. Mais comment on force les gens à accepter ça? C'est-à-dire qu'il faut aller vers un gouvernement mondial en réalité.
Alors c'est un vrai combat, c'est un vrai challenge. Donc on va faire ça en trois étapes. Première étape, c'est le modèle mieux comprendre l'avenir. Aujourd'hui, on est comme des aveugles. Et les négociations internationales à l'OMC ou ailleurs, elles se passent sur la base de prévisions qui sont fausses, qui sont erronées. On pourrait y revenir tout à l'heure, il y a des choses absolument aberrantes dans les modèles qui sont utilisés jusqu'à maintenant. Ensuite, la deuxième étape, c'est avoir une information qui soit de bonne qualité et partagée par tous. Aujourd'hui, l'OMC n'a plus aucune information des différents États membres depuis 5 ans. Comment voulez-vous qu'à l'OMC, ils arrivent à trouver un accord entre les différents pays du monde alors qu'ils n'ont pas eux-mêmes de capacité à faire des propositions?
Ce sont des avis que vous avez confrontés avec eux?
Mais bien sûr, mais d'ailleurs, on a discuté avec des gens de l'OMC qui nous ont dit on n'a plus d'informations statistiques, on les reçoit par la FAO, on les reçoit par d'autres sources.
Donc les chiffres qui mesurent sur ce secteur, notamment les pays africains, sont faux.
Ils sont faux, inexistants, ou ils sont anciens. Donc,
pas réalistes.
Il y a des modèles qui sont faux et des chiffres inexistants. Comment voulez-vous que l'on arrive à des négociations internationales qui soient des négociations qui ouvrent l'avenir intelligemment? Et pendant ce temps-là, le monde évolue à toute vitesse, il bouge à toute vitesse, il y a des enjeux à la fois de pays riches, de pays émergents et de pays pauvres.
Alors vous disiez en trois temps.
Alors en trois temps, le deuxième temps, c'est de mettre en place les moyens qui aient une information partagée entre tous pour qu'on parle le même langage. Aujourd'hui, on ne parle pas le même langage, il n'y a pas de langage. Mais c'est une agence de notation, c'est-à-dire une agence qui est capable de fournir des informations aussi bien sur l'agriculture, sur l'impact des décisions en matière agricole, sur l'environnement, sur la santé.
C'est-à-dire que vous disiez, avant vous, les gens étaient chacun reclus dans leur secteur et parlaient uniquement soit d'environnement, soit d'agriculture, soit d'aide au développement.
Il y a des cloisonnements entre l'environnement, l'agriculture et le développement. D'ailleurs, on s'est rendu compte au bout de 30 ans que l'aide au développement, il n'y en a quasiment que 3 ou 4% qui allait à l'agriculture.
Ça, c'est un amende honorable faite par la Banque mondiale elle-même.
C'est un amende honorable faite par la Banque mondiale. Ça fait 20 ans qu'on le sait, mais la Banque mondiale vivait sur un modèle complètement théorique qui était que les pays les plus pauvres allaient s'industrialiser très vite. J'ai même rencontré une autre autorité de la Banque mondiale à Washington il y a quelques mois qui me dit « Oh ben c'est pas grave, pour trouver de l'emploi, on créera des call centers ».
Mais justement, donc, ça veut dire qu'avec le modèle Momagri, vous clamez que c'est un outil pour les États, aussi bien les États que les institutions nationales finalement. Et comment vous espérez justement faire adhérer les partisans de l'agriculture mondiale à ce modèle?
Enfin, adhérer, parce que c'est un modèle qui mesure aussi les impacts sur l'environnement, sur la pauvreté, sur la biodiversité, et c'est un modèle qui est capable pour la première fois de modéliser la caractéristique numéro un du monde agricole, c'est la volatilité des prix. Jusque-là, tous les modèles considéraient que les prix augmentaient de manière linéaire, comme les voitures, comme les t-shirts. Et la réalité est tout à fait différente.
Ces experts-là, il faut que ce soit des experts qui soient acceptés, en fait, par tout le monde, et notamment qui puissent s'imposer aux politiques, parce qu'à un moment, ça doit se passer comme ça.
Alors, pour pouvoir s'imposer aux politiques, c'est là que l'agence de notation joue son rôle. Quand Standard & Poor's ou Moody's ou Fitch, qui sont parfois un peu décriés, mais qui sont quand même très suivis, dégradent la note d'un État ou dégradent la note d'une entreprise parce qu'elle a pris des décisions qui ne convenaient pas et qui la rendent un petit peu plus insolvable à terme, tout le monde en tient compte. Donc, il faut encore une fois créer une information forte et qui s'impose. On est dans la société du 21e siècle, c'est une société de l'information. Si on n'a pas une bonne information, on n'a pas de bonnes décisions politiques. Et le troisième étage, et là je réponds plus directement à votre question tout à l'heure, c'est une gouvernance mondiale autour de l'agriculture. C'est effectivement mettre en place une coopération internationale qui permette autour de prix d'équilibre par grandes zones du monde, parce que la situation de l'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud, de l'Europe sont différentes. Il faut qu'il y ait un accord pour des prix pour les grandes denrées agricoles pour chacune de ces grandes zones.
Les critères de convergence ?
Des formes de critères de convergence, mais qui ne s'appliqueront pas obligatoirement. Parce que le système obligatoire qui avait été tenté par la CNUSED dans les années 76 avec l'accord sur les produits de base n'a pas marché. On ne peut pas imposer. Il faut créer les conditions d'un consensus. Donc, obliger, lorsque les prix deviennent trop hauts ou trop bas, à ce qu'il y ait des décisions internationales pour faire face aux situations de crise.
Il nous reste une minute.
Il faudra aussi avoir quelqu'un qui soit très charismatique pour
conduire
ce genre
le projet.
De choses. Parce que si je prends le cas de l'OMC par exemple, bon, la personnalité de M. Lamy, c'est un personnage formidable, mais c'est un pet sec extraordinaire.
Oui, tout à fait.
Ce sera répété en amplifié, Nicolas.
Non, mais les gens disent qu'il y a quelqu'un qui est pour la coexistence pacifique, je veux dire, c'est le Dalai Lama, et puis quelqu'un qui est pour la confrontation, c'est le Dalai Lamy. Donc, c'est pour vous dire à quel point il a une réputation.
Non.
Donc,
c'est un haut fonctionnaire, il a un mandat à remplir, ce n'est pas un politique charismatique. En revanche, nous avons prévu de créer un conseil des sages à l'échelle internationale, qui réunissent soit des anciens chefs d'État, soit des prix Nobel, qui en toute indépendance valideront les propositions
mais surtout,
de gouvernance internationale.
Je vous interromps et vous comprendrez pourquoi. Vous êtes un ancien journaliste. Il est temps venu pour nous de retrouver l'information en rappelant que vous invitez le 9 avril au Parlement européen. Eh bien, tous ceux qui veulent en savoir plus, à découvrir la substance du MoMA. Rendez-vous dans quelques instants, tout juste après le journal, et allez sur le site momagri.org.
À tout à l'heure.